Bonjour. Nous allons donc aborder cette fois une autre question liée au temps, à savoir le long labeur du temps. Il s'agit de mettre en place peut-être une nouvelle politique sociale, de construire un ouvrage d'art à léguer aux générations futures et qui mettent évidemment beaucoup de temps à être réalisés. Ce sont surtout des travaux qui excèdent la durée d'une vie humaine. Donc, comment s'y prend-on pour gérer de tels projets? Quelle chance aussi a-t-on de les mener à bien et de les réussir? Peut-être qu'on nous donnera des exemples où ça a complètement capoté. Alors, avec moi, Dominique Douet, un auteur qui a commencé dans les années 70, qui a été dans fiction, dans la mouvance de la SF politique des années 70, qui a eu déjà, en 1975, le Grand Prix de l'imaginaire, donc pour les voyages ordinaires d'un amateur de tableaux, c'est ça ? Ah oui, c'était pour la nouvelle Thomas, très bien. Il a écrit à peu près une soixantaine de nouvelles. Il a travaillé dans l'administration du Trésor public. Il est entré au cabinet ministériel en 81, à la chambre régionale de la Cour des comptes. Donc il y aura certainement des choses à dire là-dessus. Il a été aussi éditeur avec Patrice Duvic et Jean-Pierre Andrevon, qui a lancé une excellente collection qui s'appelait Fiction aux éditions de la Découverte, et qui nous a par exemple présenté le cyberpunk. C'est sorti, et c'est d'abord sorti là. Et puis, depuis récemment, il est revenu à l'écriture, depuis 2014, avec notamment « Car les temps changent »,« La fenêtre de Diane » et « Brume de cendre ». Émeric Céasseau est secrétaire départemental du PCF en Loire-Atlantique, adjoint au maire de Nantes et en charge de la lecture publique et des médiathèques. Nous sommes aussi sur une question de temps de conservation aussi. Voilà. Et on pourra certainement en parler. Et puis Olivier Berenval, qui a travaillé dans l'aide internationale au développement et à la finance. C'est un amoureux de l'Afrique. Et qui a commencé à écrire des romans de science-fiction, notamment Art Science. Il a été sélectionné pour le prix Révélation Futurielle 2016 pour Yanos, Singularité Nue. Et la nouveauté vient juste de sortir, c'est Nemrod, Planète Opéra. Et puis Raphaël Granier de Cassagnac, donc écrivain et physicien des particules au CNRS, qui n'écrit pas de la Art Science, ça a été confirmé sur le précédent plateau. Bon, il travaille plutôt dans la plasma de quark et de gluon. Nous sommes dans des temps vraiment très très reculés. On lui doit notamment Thinking Eternity et Eternity Incorporated. C'est un futur proche où on parle de clonage, de réalité virtuelle, d'implants. Il dirige aussi une collection, Ouroboros, chez Mnemos, mais là, on est plutôt dans les livres illustrés autour de l'œuvre d'auteur, comme par exemple Jules Verne ou Lovecraft. Voilà. Donc, peut-être pour commencer le débat, on pourrait peut-être presque le découper en plusieurs parties. C'est le long labeur du temps, des temps anciens, et puis ensuite, comment on pourrait entrevoir les réalisations futures. Quel est le principal problème face à des défis qui excèdent la durée de la vie humaine? Quels sont ceux peut-être qu'on avait pu voir avant? Raphaël?
Ta question, c'est quel est le principal problème pour des projets qui excèdent la vie humaine? C'est la vie humaine. Non, mais c'est le fait que l'homme a de moins en moins aujourd'hui, je pense que c'était moins vrai aujourd'hui, de moins en moins capable de s'investir dans des projets dont il ne verra pas le jour, quoi. Je pense que, pour moi, le frein principal pour faire des projets qui dépassent nos vies, c'est nous-mêmes, en fait. Je pense qu'il faut qu'on se fasse un peu violence. Nos ancêtres avant nous le faisaient beaucoup moins que nous. Peut-être je peux lancer comme ça des idées de projets, mais les cathédrales, par exemple, les cathédrales, il fallait un siècle pour faire une cathédrale. Il y en a qui ont duré moins, plus. Et donc, les gens qui démarraient la conception d'une cathédrale, et les religieux et les artisans, ne voyaient pas le jour de ces choses-là. Et moi, je trouve que c'est dommage que dans la société moderne, où tout va de plus en plus vite, on soit très, très, très peu capable de se donner des projets d'échelle humaine. Alors, J'ai un léger espoir aujourd'hui, c'est l'écologie, quoi. C'est-à-dire que l'écologie, ouais, c'est on en parle de plus en plus. Les gens commencent de plus en plus à prendre conscience qu'il faut faire quelque chose pour notre planète qui va pas très bien et changer nos habitudes. Et c'est un truc qu'on perçoit peu. C'est-à-dire même à notre échelle à nous, on voit pas bien le réchauffement climatique. On nous dit qu'il existe, mais on le sent pas en tant qu'individu. Et néanmoins, on est quand même en train un tout petit peu. De se dire qu'il faut faire un truc pour les générations futures, donc régler ce problème pas pour nous mais pour nos enfants et des choses comme ça. Voilà, j'ai lancé deux trucs, charge à vous de rebondir.
Il est allumé, parfait. Bonjour à tous. Oui, comme le disait Raphaël, le problème c'est effectivement le sujet de la temporalité, comment gérer des projets qui excède une vie humaine qu'on peut estimer à 70-80 ans. Il faut imaginer qu'auparavant, c'était bien plus court. Et donc, il y avait les cathédrales, les pyramides, tous les grands édifices religieux. On peut penser au Machu Picchu, etc. Et parmi les pistes que je voudrais lancer, c'est effectivement ce temps qui était long, cette temporalité qui était longue et qui pouvait s'échelonner sur plusieurs générations, avec des projets où les groupes sociaux pouvaient se les approprier et se les transmettre de génération en génération. À notre époque, et je dirais c'est également une des conséquences, un des corollaires de nos démocraties, il devient difficile de s'inscrire dans ce temps qui est long. Alors d'une part sur l'action publique, puisque déjà il y a des mandats électifs avec des renouvellements réguliers, et parfois investir sur ces projets longs, ça n'est pas forcément très populaire et ça nécessite de s'investir, et souvent nos dirigeants politiques n'ont pas cette vision à long terme. Et également dans le secteur privé, on est de plus en plus soumis à des pressions court-termistes de distribution de dividendes, etc., de remontée de résultats. Ce qui fait que également cette temporalité longue n'est pas favorisée par les équipes de direction et elles ne le sont pas non plus par le personnel politique. Donc c'est vraiment ces deux pistes que je voudrais évoquer pour vous faire réagir.
Oui, peut-être commencer par s'interroger sur ce qui faisait qu'on avait ces grands projets. Et finalement, leur point commun, c'est qu'ils s'adressaient tous à l'éternité de l'objet lui-même, qui était pensé comme éternel, voire à l'éternel en tant que sacré, puisqu'on érigeait des bâtiments religieux, des mégalithes, des pyramides qu'il fallait qu'elles soient finies pour enterrer le pharaon, mais qui devaient rester éternellement, puis des cathédrales, etc. Et je crois qu'il y a aujourd'hui... On a le défi d'une humanité qui est quasiment en perte de sens, avec des défis qui sont posés, qui sont considérables, comme le défi de la crise écologique. Et d'un autre côté, on a changé, parce que ce qui était rendu possible par la société qui conduisait à ces constructions voulues éternelles, c'était une société esclavagiste, c'était une société d'ordre, et on change d'échelle quand on arrive sur le travail salarié, dont évidemment il faut rappeler que pour les hommes, donc pour les salariés, il s'est agi de maîtriser le temps propre de leur propre vie, c'est-à-dire de travailler à la réduction du temps de travail, à s'approprier des temps de vie après le travail. C'est la revendication du mouvement ouvrier des 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de sommeil, c'est la conquête des retraites. Et sur ces constructions sociales d'ailleurs, il y avait des gens à la Libération, une partie du patronat qui ne pouvait pas considérer un acquis social de cette envergure, et une autre partie qui riait en disant « mais de toute façon, ils ne vivront jamais assez vieux pour en profiter, donc allons-y ». Et aujourd'hui, on voit qu'on a une course de vitesse dans l'autre sens, c'est-à-dire de reconquête du temps de travail. On nous fait travailler plus longtemps à la retraite, on considère que la réduction du temps de travail est une anomalie, alors même qu'il y a de quoi s'interroger avec la question du travail lui-même, l'accès aux machines et aux gains de productivité. Et donc, on a ces changements d'échelle-là. Moi, je ne serais pas... plus long pour le moment, mais je crois que ce qui vient d'être levé sur la question du court-termisme, à la fois politique, mais que je vois, moi, très économique et très financier, est probablement le principal handicap pour arriver à des réalisations évidemment utiles à l'humanité. Mais moi, je considère que tout ce qui a été construit, quel que soit l'objectif, sont des caractérisations du génie humain quand on voit une cathédrale. Mais de la même manière, et je conclue là-dessus, que sur les temps longs qui sont ceux de l'industrie, et c'est une grande question à l'heure actuelle, d'ailleurs c'est une grande question si on voit les premiers pas du gouvernement qui vient d'être élu, eh bien, quand on voit partir un paquebot géant de Saint-Nazaire, ici pas loin, on voit aussi, à mon avis, une manifestation du génie humain qui est tout à fait impressionnante.
Oui, alors, moi, je vais peut-être remonter un peu plus dans le temps. Je suis frappé par un paradoxe qui n'est peut-être qu'apparent. C'est le fait que, jusqu'à la révolution industrielle, en gros, l'homme, au sein de la société, pouvait avoir l'impression que les choses évoluaient si lentement qu'il pouvait se dire qu'il n'y avait pas vraiment d'évolution. Et c'est à cette époque qu'ont été construites les cathédrales, les pyramides, etc. À partir de la révolution industrielle, enfin plutôt la révolution industrielle induit d'autres révolutions et notamment une évolution très rapide des sciences, des techniques et de la société. Et à partir de là, on observe qu'une raréfaction progressive des œuvres qu'on pourrait rattacher aux cathédrales, aux pyramides, etc. On peut prendre un exemple trivial, celui des grandes réalisations des septennats ou des quinquennats successifs. Bon, il y a eu le centre Pompidou, il y a eu la pyramide du Louvre, il y a eu la très grande bibliothèque, il y a eu l'Arche de la Défense. Il y a eu le musée du Quai Branly, et depuis, rien. Pas de grande réalisation destinée à porter une trace d'une époque dans le temps. Quelle déduction tirer de cette constatation ? D'abord, effectivement, que le sentiment de participer à une évolution, à savoir que demain ne sera pas jamais semblable à aujourd'hui et encore plus à hier. Tout cela fait que bon, on se dit à quoi bon laisser une trace. Et puis oui, je pense que il y a aussi, alors de façon encore plus triviale, l'état d'esprit des sociétés. Dans une période où l'aisance économique fait que l'on a le luxe de pouvoir se projeter dans l'avenir, on a envie de laisser des traces. À une époque où la préoccupation première, c'est par exemple de trouver du travail. Bon, laisser sa trace dans le temps, ça passe bien, ça passe à l'arrière-plan. Voilà, c'était juste une réflexion, mais qui se rattache à ce qui a été dit précédemment.
Ouais, moi j'aime bien une chose que tu viens de dire, c'est l'idée que peut-être maintenant que nous on voit changer le monde très 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 vite, hein, voilà, ça n'existait pas du tout quand je suis né, et ben peut-être que ça nous freine pour faire des projets plus longs. C'est ce que tu disais, que peut-être que c'est au moment de la révolution industrielle que l'inclinaison de l'humanité vers faire des projets à long terme aurait diminué. Ça me parle.
Oui, effectivement, sur les notions de projet à long terme, il y a des réalisations très concrètes qui sont en train d'émerger et qui nous questionnent. Moi, je voulais prendre l'exemple de ce qu'on appelle la grande route de la soie, qui est en train d'être bâtie par la Chine. Donc, c'est ce qu'on appelle du transport multimodal, donc route, chemin de fer, etc., et qui, idéalement, doit relier la Chine depuis l'extrême est jusqu'à l'Europe, et effectivement traverser plusieurs milliers de kilomètres. Et ça, les dirigeants chinois ont pris cette décision. Ça s'accompagne d'une mise en œuvre qui est très efficiente, très planifiée. Ils y vont déjà pour intégrer une partie de leur marché intérieur des provinces de l'Ouest. Et puis progressivement, ils se déplacent vers l'Europe. Et tout ça, c'est une réalisation, on va dire, du 21e siècle qui va voir le jour. Mais ça nous interroge également sur la capacité, effectivement, dans les démocraties où le temps électif est court, donc 5 ans pour la France, 4 ans pour les États-Unis, et puis on peut multiplier les exemples, à s'inscrire dans des temporalités qui sont longues. Alors évidemment, il est toujours préférable de vivre en démocratie que dans un régime très fortement autoritaire. Mais ça pose également la question de nos démocraties, leur capacité à se réapproprier ces projets sur un très long terme. Et ça, effectivement, pour l'instant, on ne voit pas de solution émerger de façon naturelle.
Moi, je voulais revenir juste sur un point pour le creuser un peu. Je ne crois pas qu'il y a eu des périodes d'abondance de l'humanité où il était facile de projeter. D'autre part, il y a eu de grands projets qui soient intemporels et à vocation universelle, comme la Révolution française, qui imagine tout d'un coup qu'on peut se débarrasser du pouvoir spirituel et temporel du roi. Ou donc qui se passait sur un fond de crise sociale et économique, ou un autre exemple qui peut être le programme du Conseil national de la résistance, qui est construit par quelques-uns dans le maquis, dans l'unité nationale, en rassemblant des forces très larges, qui est un texte magnifique à lire et que je conseille de lire à tout le monde, qui s'appelle Les Jours Heureux, et qui projette une société possible de l'après-barbarie. On est sous l'occupation allemande, donc c'est-à-dire que parfois, et je rejoins en ça ce qui a été dit sur la crise écologique, parfois les défis les plus graves, les périodes les plus sombres peuvent ramener à l'universel et ramener vers une force propulsive meilleure. Mais quand je disais qu'on avait une humanité en perte de sens, c'est que je crois qu'on est en recherche de cette force propulsive positive pour l'humanité. Deuxièmement, un point pour rebondir aussi sur ce qui vient d'être dit. Je crois que la révolution informationnelle elle-même impose des nouveaux rythmes. La gestion du temps a considérablement évolué à l'échelle d'une génération, ne serait-ce que la mienne. Moi aussi, j'ai grandi sans téléphone portable, sans Internet, etc. Et donc, la gestion du temps a considérablement changé. Les interactions citoyennes ont considérablement changé. Il suffit que je dise ici une connerie plus grosse que moi pour être mise en accusation sur Twitter demain, sur la place Nantes, etc. Et on demande des comptes beaucoup plus forts et beaucoup plus souvent. Et il y a, de ce point de vue-là, des aspects extrêmement positifs. Qu'un citoyen demande des comptes plus forts et plus souvent, moi, ça me paraît plutôt positif. Et en même temps, on vit dans une dictature de l'instant et du temps très court qui est parfois insupportable et la pression vis-à-vis du politique est très dure. Ce qui doit nous interroger, je crois, pour prendre un seul exemple qui est connu dans la France entière, qui est celui de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Faut-il transférer, vous voyez qu'on est survolé par les avions ou pas, etc. Bon, moi, j'ai dû me prononcer en tant qu'élu, quel que soit l'avis qu'on puisse avoir les uns et les autres sur le sujet. Je crois que le temps du débat public et la construction de ces temps de débat public et ces temps d'échange citoyen n'est plus adéquate et n'est plus possible en restant dans la manière dont on avait de les conduire. Et tout ça est extrêmement dur et dépasse effectivement la question des mandats électoraux. Maintenant, il y a des éléments positifs, comme je l'ai dit. Les aspirations citoyennes qui se développent sont des éléments extrêmement positifs.
Peut-être juste pour rebondir très vite là-dessus. Pour Twitter, il y a déjà quelqu'un qui a tweeté que tu avais dit une connerie. Tu le découvriras en sortant de la table ronde, les échelles temps. Dans un de mes bouquins, j'aborde pas mal l'histoire des grands projets comme ça, et en particulier, par exemple, de l'exploration de Mars, qui est un des grands projets dont on peut parler aussi, qui est en train de renaître avec des forces assez intéressantes, privées, publiques, compliquées dans le débat public. Et dans mon bouquin, il y a une journaliste qui demande à un futur marsonaute qu'est-ce qui va plus lui manquer quand il sera dans l'espace. Et il répond précisément... Non, c'est pas vrai pour Twitter, t'inquiète pas. Ah non, t'es en train de tweeter que je viens de dire une bêtise, c'est ça. Et il répond les réseaux sociaux, parce que vous allez nous suivre, nous, Marsonautes, sur les réseaux sociaux, vous allez vous intéresser à ce qu'on fait, sauf qu'au bout d'un moment, avec la vitesse finie de la lumière, notre temps de réponse va devenir inadapté pour votre temps terrestre, et vous allez vous désintéresser fondamentalement de cet énorme projet génial qui serait de voir quelqu'un marcher sur Mars. Ceux qui y étaient se souviennent de... Moi, j'y étais pas. C'est de dire comme les échelles sont en train de se dilater, de ceux qui étaient quand quelqu'un a marché sur la Lune. Mon personnage, il dit justement, à cause de cette temporalité informative qui devient très, 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 très petite, peut-être que même vous allez vous désintéresser de ce projet génial.
Oui, je voudrais réagir à ce que disait Emmerich concernant la trace qu'on peut laisser dans le temps et qui n'est pas obligatoirement une trace de pierre et de béton. C'est-à-dire, c'est aussi la trace sociale ou philosophique ou politique. La déclaration des droits de l'homme, la position prise pendant l'occupation par des penseurs, des politiciens. Tout ça, je pense qu'effectivement, c'est aussi important que la pierre. Le problème, c'est que c'est aussi plus relatif. La pierre dure, les idées, ma foi, même si on prétend les conserver dans de jolis cadres, on les remet en cause. Rien n'est plus facile lorsque des lois sociales, par exemple, ont été votées, que de les détricoter au fil des décennies. Et c'est ce qu'on observe depuis quand même pas mal de temps, où on a, oui, c'est ça, un détricotage. C'est vrai en France, c'est vrai à la vitesse grand V, enfin, aux États-Unis, enfin, d'après ce que voudrait le président actuel des États-Unis, ça va moins vite que ce qu'il voudrait, mais... Voilà, c'est-à-dire qu'il me semble que justement ces monuments de pensée que nous pensons laisser aux générations futures sont à la fois précaires et relatifs.
Oui, moi je voulais revenir une fois de plus sur l'action publique, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup d'enjeux et de problématiques qui dépasse largement les problématiques immédiates du privé. Et il faut se souvenir que quand même, le politique n'a pas toujours été dépourvu. À une époque, en France, on avait évidemment ce qu'on appelait le colbertisme, donc un dirigisme qui a permis l'aménagement et de grands travaux en France à une certaine époque. Ensuite, on a eu le fameux commissariat au plan avec le fameux plan quinquennal qui a duré, qui s'est arrêté en 93, je crois, le commissariat au plan a été stoppé en 93 et maintenant il a été renommé France Stratégie et donc c'est vraiment un conseil d'orientation qui existe. Au Japon, il y a la même chose avec le MITI, qui est le ministère de la technologie et de l'innovation, qui doit impulser les grandes orientations, notamment sur tout ce qui est intelligence artificielle, robotique, etc. Donc le politique n'est pas non plus totalement démuni. Par contre, on voit bien que ce sont des initiatives qui restent à des niveaux nationaux, alors que les problématiques que l'on a actuellement sont des problématiques de réchauffement climatique qui sont supranationales. Comme le disait, comme on le voit dans le documentaire de Gore, nous entrons maintenant dans ce qu'on appelle l'époque des conséquences. Et effectivement, il n'y a pas d'organisme supranational qui est à même actuellement de gérer ce type de conséquences. On reste sur des comités, sur des sommets sur le climat qui se succèdent. Ensuite, c'est un petit peu à géométrie variable. Il y a des pays qui en sortent, qui en re-rentrent, on va dire, au gré des vents électoraux. Et ça, c'est un problème de fond.
C'est un problème de moyens d'action, oui. Moi, je peux peut-être injecter un exemple qui est dans ma profession. C'est-à-dire que la science que je fais, elle se fait au niveau mondial, justement. On n'a pas le choix. Aucun gouvernement seul ne met assez d'argent dans la recherche pour qu'on puisse faire un CERN ou quelque chose comme ça. au niveau national. Donc la communauté des physiciens des particules est mondiale depuis longtemps, elle se parle depuis longtemps. Vous savez peut-être même que dans une certaine mesure, c'est elle qui a inventé Internet pour partager des informations entre des gens qui sont dans des pays assez loin. Et donc on voit qu'en se mettant ensemble comme ça sur une question qui est très spécifique et qui concerne pas beaucoup de gens, on arrive quand même, et j'espère que pour le climat ça, on peut aller vers une démarche comme ça, on arrive quand même à réclamer individuellement à nos gouvernements de l'argent, à nous mettre l'argent ensemble dans un seul endroit pour fabriquer un grand projet. Et on dit souvent que le LHC est une espèce de cathédrale moderne. Le LHC, c'est l'accélérateur de particules qui est au CERN aujourd'hui. Pour vous donner une échelle de temps, il a été décidé en gros en 94. Il devait fonctionner en 99. Il a commencé à fonctionner en 2007, du 8. Et puis on pense l'exploiter jusqu'à 2035. Donc on est quand même sur un projet que dont les fondateurs ne verront pas la fin. Ils ont sans doute vu le début quand même. Donc on est quand même dans une échelle de temps courte par rapport à une cathédrale, je pense. Mais voilà, et donc il y a peut-être un moyen comme ça pour essayer de convaincre les politiques. C'est peut-être ce qui se passe un peu avec le climat, où de plus en plus de gens en parlent et se sentent concernés, et nous, citoyens, on se sent concernés. Et je pense que dans une certaine mesure, on investit nos politiques, on leur laisse pas vraiment le choix, c'est une réalité. Mais on a une responsabilité, nous, citoyens, de se sentir extrêmement concernés par ça, d'en parler tout le temps, c'est qu'un seul exemple parmi d'autres, je pense, pour que nos politiques, à la limite, quel que soit leur bord, n'aient pas le choix que de s'emparer de cette question-là, quoi. Après, il y en a qui sont meilleurs que d'autres pour s'en emparer.
Je crois que toute l'histoire des idées et de la vie politique est une question de rapport de force, évidemment. Moi, je partage le côté volatile des idées dans leur réalisation politique et concrète. Je parlais tout à l'heure de la libération, mais Ambroise Croizat, donc, qui était le ministre des Retraites et de la Sécurité sociale, disait « ne parlez pas d'acquis sociaux, mais de conquis, parce que nos adversaires ne désarment jamais ». Donc, il y a toujours ces mouvements. On peut toujours revenir en avant, en arrière. Par contre, je pense que d'abord, il y a des idées qui ne meurent pas et que le mouvement d'idées, lui, est éternel. D'ailleurs, nous sommes en train, en parlant de Twitter, en rigolant à l'instant, de nous poser exactement les mêmes questions que les Grecs quand ils ont mis en place la démocratie athélienne et qui se rendaient compte que finalement, c'est les rhétoriciens qui gagnaient et que les rhétoriciens dans l'agora étaient achetés ensuite par les citoyens les plus puissants. Donc l'irruption de qui décide et du processus de décision et de la pression sur le processus de décision est une question à peu près éternelle. Juste un mot, moi, sur l'état du monde et on vit un mouvement de démission du politique vis-à-vis de l'économique, qui, de mon point de vue, est particulièrement inquiétant. Et ce mouvement est celui d'une financiarisation extrême de l'économie qui conduit à la crise qu'on est en train de traverser peut-être. On nous parle de secousses nouvelles dans les prochaines années, mais en tout cas celle qui a commencé en 2007 avec les subprimes américains. Un seul chiffre pour dire qu'il y a 30 ans, le PIB mondial était équivalent au poids de la finance mondiale et qu'aujourd'hui, la finance mondiale, c'est deux fois le PIB mondial et qu'on a une pression terrible. Le court-termisme, ça a été évoqué. Le taux de profit à deux chiffres qui conduit à l'amoindrissement des projets. Je prends un exemple dans l'industrie. L'industrie, c'est du temps long. Quant à Airbus, on a mis environ 20 ans pour construire le projet A320. Pour donner un chiffre, quand même, Airbus aujourd'hui, il sort plus d'un avion par jour. C'est les capacités de production d'Airbus à l'heure actuelle. Et on vit toujours sur l'A320 qui a été construit il y a 30 ans et que cette année, Airbus a distribué plus de dividendes qu'elle n'a fait de bénéfices, c'est-à-dire qu'on a tapé dans la trésorerie pour rémunérer les actionnaires. Eh bien, nous avons un problème parce que ce même A320, je n'ai pas les chiffres, mais ça chiffre en dizaines de milliards d'investissements rentables au bout de 25 ans. Et donc, on sait que sur la politique industrielle, si on a des exemples comme ça, on va avoir des déconvenues très rapides, y compris de manière concurrentielle avec Boeing. Mais surtout, on ne recherche pas les avions du futur, les avions propres, les avions qui font moins de bruit et qui pourraient répondre à des préoccupations que j'ai déjà évoquées. Donc, on est dans une problématique forte de ce court-termisme. Et je crois que parmi les grands défis des toutes prochaines années auxquelles est confrontée notre humanité, il y a à mettre des processus en place pour dépasser ce court-termisme et, à mon avis, pour l'affronter et pour le vaincre.
Non, je suis d'accord avec toi, je pense qu'on ne ferait pas de TGV aujourd'hui, quoi. Ou alors un TGV qui ne marche pas et qui a des accidents. C'est quand même assez remarquable que le TGV a pendant très longtemps pas eu d'accident du tout, quoi. Et c'est, ça, ça n'est possible que si tu conçois des projets à très très long terme. Moi, il y a une chose qui m'intrigue, qui m'interpelle, et je ne sais pas si je suis rassuré ou pas par cette question-là, c'est que je suis d'accord avec toi sur la distinction entre un peu le politique et le monde économique et de la finance. Néanmoins, il surgit aujourd'hui du monde économique et de la, pas de la finance, mais économique, des acteurs assez intéressants. C'est essentiellement les gens comme Zuckerberg, Page et tout ça, qui sont devenus riches très 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 vite. Et qui, mine de rien, dans leur programme actuel, ont des champs qui relèvent des très très grands projets. Bon, pour aller dans les trucs les plus délirants, ils réfléchissent même à l'immortalité, des choses comme ça. Mais ils ont des tas de projets qui sont en fait, mine de rien, assez universels et assez philanthropes. Et pour moi, ça ne devrait pas venir d'eux. Mais aujourd'hui, ça vient un peu d'eux. Alors heureusement, il y a une espèce de guerre froide entre le public et le privé qui se crée. Mais c'est eux qui l'ont déclenché. Hein. Quand l'un d'entre eux veut aller sur Mars, et ben d'un seul coup la NASA se réveille et se dit ah ben non, on avait mis ça un peu dans les tiroirs parce que ça coûtait trop cher, mais finalement comme il y a quelqu'un qui a beaucoup d'argent qui est en train de regarder, on va aussi s'investir là-dedans. Et ça, bon, encore une fois, je suis pas rassuré parce que à la fin c'est quand même des gens qui font du profit et qui ont très peu de contrôle citoyen en fait. Hein. Ils ont quand même des employés qui peuvent éventuellement faire des choses, mais arrêter de bosser, faire des grèves, des trucs comme ça. Mais ils ont très peu de contrôle et ça m'inquiète parce que c'est eux, enfin je vois aujourd'hui que c'est eux qui amènent les projets qui nous font le plus rêver en fait, aller sur Mars, des choses comme ça.
Oui, effectivement, pour rebondir sur ce que vient de dire Raphaël, Elon Musk, effectivement, qui fait partie de, on va dire, de la bande la plus. Et l'un des plus représentatifs. Donc on le connaît évidemment pour tous ses projets de conquête. Conquête spatiale, Mars, etc. Il y a également des choses beaucoup plus terre à terre, mais qui sont importantes, qu'il essaie de développer. Et c'est effectivement, je prends l'exemple d'Hyperloop. Hyperloop, l'idée, c'est d'avoir un moyen de transport extrêmement rapide sur à peu près sur une distance de 400 km. Donc l'idée, c'est d'avoir des rails avec de la sustentation magnétique, avoir une sorte de capsule qui est projetée par dépressurisation et d'avoir des personnes à l'intérieur, évidemment, qui n'ont pas le cerveau totalement éclaté lorsqu'ils se déplacent à des vitesses supersoniques. Et donc là, il y a quelque chose d'intéressant puisque ce projet Hyperloop, il monte en fait des groupes d'animation du projet dans les meilleures universités et écoles d'ingénieurs de la planète, et c'est quelque chose de contributif où il y a une sorte de concours où les meilleurs ensuite iront en Californie pour présenter leurs différents projets, puisqu'il y a toute une partie ingénierie, il y a une partie liée à l'aérodynamique, etc. Mais ça questionne également, comme le disait Raphaël, sur le désengagement du public, puisque on peut dire qu'Hyperloop, finalement, c'est une version 3.0 du TGV. Ça questionne également, sur le désengagement du public et pourquoi des intérêts privés qui peuvent être animés des meilleures intentions du monde au début s'emparent de ces projets qui sont du très long terme. Donc là aussi, ça, en tant que citoyen, ça nous questionne sur notre capacité à faire réagir nos politiques sur ces projets.
J'ai l'impression que vous pointez deux problèmes complémentaires. D'une part, l'aspect économique, qui peut-être se traduisait déjà au temps des cathédrales. Il y a eu des cathédrales qui ont été interrompues, qui n'ont été poursuivies que plus tard, ce qui fait qu'on a un mélange de gothique, d'autres architectures et d'art roman, et la capacité à mobiliser des synergies pour s'y mettre. Du temps des cathédrales, on essayait d'imposer un pouvoir religieux. Et à ce moment-là, on essayait de vendre le projet et tout le monde y adhérait. J'ai été sensible à ce que disait Dominique lorsqu'il parlait de laisser sa marque, où à ce moment-là, c'était plutôt une personne qui veut laisser une trace plutôt que de vendre un projet. Et j'ai l'impression que donc, si les industriels aujourd'hui lancent les grands projets dont peut-être les gouvernements auraient dû s'occuper, c'est que les gouvernements faisaient peut-être plus attention à l'économique et pensaient peut-être à laisser une marque, ce qui excède ce qui ne marche pas pour un grand, grand projet, alors que ceux-là sont encore dans le temps du rêve et savent vendre un projet en tant qu'industriel, et parce que maintenant ils ont les moyens financiers d'y parvenir, peuvent les proposer. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, en fait, on pourrait, en caricaturant un peu, mais pas trop, dire que les industriels dont vous parliez sont les mécènes de la Florence du XVIIe siècle. Il y a sans doute un peu de ça. Hein. Je pense qu'il y a aussi la volonté, comme le disait Raphaël, d'occuper une place laissée vacante par le public. Mais pourquoi cette place a-t-elle été vacante ? J'en reviens au duel Friedman-Keynes. C'est Friedman qui l'a emporté. C'est le néolibéralisme qui imprègne nos sociétés maintenant. Bon, ce que personnellement je regrette, mais c'est un avis tout personnel. En tout cas, ça s'est traduit par une raréfaction des moyens du public. Que des industriels s'engouffrent là-dedans, ça me paraît, la nature a horreur du vide. Hein, les industriels prennent la place des services, enfin, de la recherche publique. Mais encore une fois, dans ce que je dis, il n'y a aucun jugement de valeur. Il se peut très bien que les industriels dont il était question soient animés des meilleures intentions du monde. Le résultat, tout de même, c'est qu'il s'agit d'entreprises privées destinées à faire ressortir des bénéfices, distribuer. Enfin, c'est la bulle qui n'en finit pas de se nourrir d'elle-même.
Pour dire autrement ce que tu dis, ouais, les États sont endettés, les entreprises font des bénéfices, donc qui peut financer ? C'est pas très compliqué de faire l'addition. Hein.
Et les États sont endettés, mais on ne va pas rentrer dans un débat sur les politiques monétaires qui serait un peu long, mais certainement passionnant, depuis qu'on leur demande de s'endetter sur les marchés privés et non plus auprès des banques d'État. Donc tout ça est la logique qui vient d'être énoncée. Pourquoi pas dénoncer, mais là, ça relève des convictions personnelles sur l'impact du néolibéralisme. Alors, on peut toujours espérer que Mark Zuckerberg, puis le mal n'est pas dans tout. Simplement, ce qui différencie certainement Zuckerberg des mécènes florentins, c'est ce que disait Marx à propos de la Révolution française en disant que c'était une manière plébéienne de se débarrasser de l'absolutisme et de la féodalité, qui étaient deux fléaux pour la bourgeoisie qui était en train de prendre le pouvoir. Mais dans l'absolutisme et la féodalité, il y avait la gouvernance de l'État. Et dans la féodalité, il y avait ce rapport à la fois au temporel et au spirituel qui mettait en mouvement la société. Je ne sais pas ce qui motive aujourd'hui Zuckerberg. Il faudrait qu'on l'invite aux Utopiales, tiens, pour qu'il puisse venir nous en parler. Mais par contre, moi, ce qui me frappe et ce qui m'effraie dans les quelques mois qui viennent de s'écouler, c'est que on a sur le champ industriel, puisque c'était venu un peu dans le débat, on a des sur Alstom, sur STX, juste à côté de chez nous, des fusions et des acquisitions qui ne sont pas fondées sur des projets. On ne sait pas quels projets industriels vont porter demain le Siemens Alstom ou le Fincantieri STX pour la navale. C'est fondé sur l'idée qu'il faut être concurrent aux grands groupes anglo-saxons, aux grands groupes chinois, et qu'il faut être concurrent, et que dans cet espace, ce vaste marché ouvert aux quatre vents, il faut être concurrent. Sauf que si on en revient à notre paradigme de départ, dont je crois nous sommes tous d'accord pour considérer qu'il est le plus urgent et le plus nécessaire, qui est la prise en compte du défi écologique qui est devant nous, comment faisons-nous en France pour engager la révolution industrielle si on perd nos capacités de production ou on les remet à une souveraineté différente? En ce qui concerne le ferré, qui est le transport le plus propre, en ce qui concerne le naval, qui est le deuxième transport le plus propre, et si on reste dans Alstom et dans General Electric, ce qui a été la branche énergie d'Alstom qui a été vendue à General Electric, on nous avait promis 1000 créations d'emplois. En ce moment, il y a 300 suppressions d'emplois à Grenoble. Qui construit les turbines d'hydrolienne, qui est la première énergie non nucléaire et la première énergie propre en France. Donc si on veut affronter ce défi-là qui est devant nous, il faudra reconquérir une souveraineté et une souveraineté de projet décidée par des citoyens, ce qui n'exclut pas d'ailleurs les mécènes, ce qui n'exclut pas le privé. En tout cas, il faut s'interroger sur la souveraineté de projet que nous aurons pour affronter les temps qui viennent et qui sont urgents et menaçants.
Moi, je voulais juste faire le lien également avec les représentations des projets à très long terme dans l'univers de la science-fiction, et en prenant deux exemples d'ouvrages pour montrer un petit peu comment le paradigme, justement, a évolué. À une époque, dans Fondation, on imaginait qu'il y avait une science qui s'appelle la psychohistoire, avec le fameux plan d'Harry Seldon qui devait... essayer de minimiser la période de chaos qui suivrait immédiatement la chute de la première fondation. Donc là, il y avait une vision de l'auteur qui était très dirigiste, puisqu'il considérait que finalement les masses humaines répondaient quelque part à des lois statistiques probabilistes que l'on pouvait modéliser. Et grâce à ça, on pouvait s'inscrire dans des projets de très long terme, sur des milliers d'années, puisque finalement, les réactions des foules et des populations pouvaient être imaginées. Là, plus récemment, il y a un ouvrage qui s'appelle Luna New Moon, qui vient d'être traduit, qui est sorti, qui imagine la colonisation de la Lune. Et là, c'est tout l'inverse qui est imaginé, puisqu'on imagine que finalement les gouvernements ne maîtrise absolument pas la colonisation lunaire, mais tout est laissé, en fait, à des sociétés privées qui se partagent le pouvoir sur la Lune, avec un clan brésilien, un clan asiatique, etc. Et je trouve que c'est assez intéressant, c'est assez illustratif de la façon dont la science-fiction reflète également la vision de qui pouvait être très dirigiste à une époque dans les années 50-60, à une vision qui se dit bah, finalement la colonisation de la Lune, ça serait une sorte de privatisation, ça sera dérégulé, et finalement ça sera des groupes d'intérêts privés qui vont s'en occuper. Et ça, je trouve ça assez révélateur de l'état d'esprit.
Si je peux rajouter une œuvre, je vais rajouter la mienne, puisque c'est un thème que j'ai un peu traité dans Thinking Eternity. Donc moi, en imaginant comment toute cette situation allait évoluer, je me suis dit qu'un jour... Un jour, Google ou un autre, alors il y a un Google Land hein, dans mes bouquins, vous pouvez savoir d'où ça vient, c'est pas compliqué. Un jour, Google ira voir la Grèce, par exemple, et lui dire « Ah, t'es endetté, toi ? Ben attends, je vais te racheter ta dette, et en échange, tu vas me donner un territoire. Tu vas me donner la Crète, par exemple. » Et puis nous, Google, au lieu de dépendre des lois des différents États, d'avoir à mettre notre siège social dans un endroit particulier, qui éventuellement est un paradis fiscal, avec tous les problèmes qu'on connaît de toute cette globalisation de la finance, on va s'installer quelque part, donc donc il faut évidemment définir tout un tas de modalités pour ça, il faut que l'ONU accepte plus ou moins, voilà. Mais on s'installe quelque part et on crée un nouveau pays dans lequel l'essentiel de notre activité démarrera, après elle est évidemment sous-traitée dans plein d'autres pays comme ils font déjà, et dans lequel on va expérimenter des choses, c'est là qu'on démarrera nos très grands projets, et on voit bien que la répète, il en a plein dans la tête comme ça. Et donc j'écris ça, c'était en 2012, j'écris ça dans mon coin comme ça, et puis genre 3 mois après, je lis une déclaration de Larry Page qui dit qu'il appelle de ses voeux, c'est pas tout à fait exactement ce que j'avais prévu, mais qu'il appelle de ses voeux des territoires pour expérimenter des nouvelles formes de gouvernance pour les entreprises privées. Donc je pense que tu parlais de contrôle citoyen et tout ça, je pense que je suis pas ni pour ni contre hein, ce que je viens d'écrire, c'est ce que j'imagine en regardant un peu ce qui se passe aujourd'hui. Et je me demande si ça ne va pas arriver, quoi. C'est-à-dire si un jour, ces grandes boîtes qui ont un petit peu de philanthropie en elles, qui ont beaucoup d'argent, ne vont pas s'ériger en état, moi j'appelle ça des sociétats dans mon bouquin, et donc nécessairement ils vont être obligés de s'inventer une forme de gouvernance à l'intérieur de leur pays, qui à mon avis sera complètement inédite. Ils vont inventer un truc auquel... ouais, peut-être que des likes, ouais, exactement. Mais pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Un truc où je m'attendrais à ce que dans leur forme de gouvernance, il y ait un contrôle citoyen, au moins au début, qu'ils essayent un truc très très fort qui va peut-être merder, hein, on verra bien. Donc voilà un peu ce que cette situation m'a inspiré.
Oui, moi je voulais juste intervenir très rapidement pour rebondir là-dessus. Il y a actuellement un mouvement qui a été lancé par les plus grands milliardaires mondiaux qui s'appelle le Giving Pledge. Le Giving Pledge, le principe est assez simple. Le premier à l'avoir accepté, c'était... donc le PDG de Microsoft, Bill Gates, ils s'engagent à donner en héritage la moitié de leur fortune à des organisations caritatives. Donc là, une fois de plus, il n'y a pas de, comme on disait, il n'y a pas de mauvaises intentions. Au contraire, on ne peut louer que ces initiatives. Par contre, la fondation Bill et Melinda Gates est actuellement le plus gros pourvoyeur de fonds dans tout ce qui est campagne de vaccination en Afrique. Mais ça se chiffre en plusieurs centaines de millions de dollars. Ça, c'est quelque chose qui est très bien, mais ça montre que des sujets aussi importants que la santé publique, les acteurs de l'aide au développement dont j'ai fait partie une époque ne peuvent plus tout assumer du fait des finances publiques qui se restreignent de plus en plus. Et effectivement, ces initiatives privées, elles sont très vertueuses puisqu'elles permettent de vacciner des populations entières. La question se pose sur que se passe-t-il quand ça s'arrête ? Voilà. Comment est-ce qu'on prend le relais ?
Et même que se passe-t-il si un jour ils ont en fait une mauvaise intention ?
On va peut-être laisser les questions dans le public pour conclure. Voilà, il y en a une là-bas. Ah, ok.
Bonjour. Ma question concerne des gros projets en sciences fondamentales tels que le LHC ou le futur du LHC. On est dans des domaines qui sont compliqués en termes théoriques pour le concitoyen, pour les politiques. Aller sur Mars, ça fait rêver. Ne craignez-vous pas que pour convaincre les citoyens et les politiques de ces futurs projets de sciences fondamentales, qui sont à mon avis nécessaires et essentiels, comment faire pour convaincre
Bien sûr qu'on le craint, et pour le LHC on a déjà dû un peu répondre à cette question là donc il y a des documents qui existent pour savoir comment justifier un machin comme le LHC. Toute la communauté est d'accord pour dire que la première justification, c'est la science, quoi. C'est le savoir, et il faut surtout pas perdre de vue ça. Il faut surtout pas mettre le pied dans la porte en disant non, en fait c'est parce qu'il y a des retombées économiques à droite, à gauche, machin. Et on est tous assez d'accord pour dire qu'il faut continuer à dire que le but premier de ces machines-là, c'est de repousser les limites de la connaissance. Deuxième point, on va descendre pour convaincre de plus en plus de gens dans le monde économique. Deuxième point, l'histoire de la science est pavée de découvertes dont les gens n'avaient aucune idée de ce à quoi ça allait servir. Je crois pas me tromper en disant que Hertz a dit, quand il a découvert les ondes électromagnétiques, qu'il pensait que ça servirait jamais à rien, les ondes électromagnétiques. Il y en a plein d'autres. Et troisième chose, c'est que s'il coûte cher, ces gros projets, c'est souvent qu'il y a des développements techniques assez chiadés à réaliser pour les faire. Et même si ces développements techniques servent à une science dont on n'a aucune idée de ce à quoi elle peut servir, eux, les développements techniques, y servent. Et je cite toujours en exemple le fait que l'institution dans laquelle il y a le plus d'accélérateurs de particules aujourd'hui, ce n'est pas du tout les centres de recherche nucléaire ou des particules, ça, c'est les hôpitaux pour soigner le cancer. Donc voilà, il faut. On a cette espèce de corpus de réponses qu'on peut donner en fonction de à qui on parle et qui fonctionne assez bien.
Une autre question là-bas.
Oui, bonjour. C'est plus une réflexion qu'une question. J'ai pas entendu parler d'ego. Pour moi, il y a une question d'ego dans ces grands projets. Il y a toujours une question de pouvoir marquer son époque par des projets, notamment architecturaux. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a moins de projets à long terme aussi, parce que la personne qui va proposer ce projet, que ce soit des politiques ou autres, ont besoin d'avoir un retour dans leur époque, un retour de ce qu'ils ont créé. Je pense que ça passe aussi par des lois, par exemple. Chaque ministre qui va passer va sortir sa loi avec son nom pour justement pouvoir profiter d'un retour du peuple, en gros, un retour de ce qu'ils ont créé. Je pense notamment aux rois de France qui ont créé des gros bâtiments, par exemple, pour que leur nom soit vraiment associé, Louis XIV à Versailles, par exemple. Et du coup, ils savaient sans doute qu'ils n'allaient pas pouvoir en profiter de leur vivant. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, chaque président veut en gros son bâtiment, alors Beaubourg ou autre. Et voilà, moi c'est plus une réflexion. Je pense que l'ego, c'est important aussi. L'ego est tellement important aujourd'hui qu'on a besoin d'avoir un retour par les réseaux sociaux de ce qu'on crée. Est-ce que pour vous, ça rentre en ligne de compte ou pas ?
Oui, enfin, dans mon esprit, c'était un des fondements de cette volonté de laisser son empreinte dans le temps. Mais est-ce qu'on peut assimiler un projet de loi, enfin une loi, à un projet destiné à marquer dans le temps? Je pense que c'est de moins en moins vrai. C'est d'ailleurs ce que vous disiez. Sans aller jusqu'à l'éducation nationale, ou alors chaque ministre qui passe veut laisser sa trace et pond une loi qui réforme ce qu'avaient fait ses prédécesseurs. Je pense que dans tous les domaines de la gouvernance, on assiste à ce genre de phénomène. Alors, c'est une manifestation d'ego, certes, mais c'est aussi, je pense qu'il y a quand même là. Je ne peux pas faire le procès aux hommes politiques, quels qu'ils soient, de n'avoir pour objectif que de valoriser le souvenir qu'ils ont laissé dans l'histoire. Je pense aussi qu'il y a une dose de sincérité, plus ou moins grande, mais une dose de sincérité qui existe pour tous, de se dire ce que je propose, c'est pour le bien public.
Oui, enfin, et puis dans les exemples qui ont été cités, les châteaux de la Loire, Versailles, il y a l'idée de la France éternelle et il y a l'idée de l'intemporel. On s'adresse à la fois à l'éternité pour construire de beaux châteaux, mais aussi parce qu'on représente l'autorité de Dieu. À la Révolution, on plante des arbres de la liberté et on tue le cochon pour le 21 janvier. On mange une tête de veau maintenant. À l'époque, c'était souvent de la tête de cochon pour fêter la disparition du roi qui, justement, représentait une éternité politique. D'autre part, si l'histoire est incarnée, un deuxième exemple de contre-exemple, mais l'exemple de Youri Gagarine, dont X ville citée en France et ailleurs porte son nom, qui a tellement incarné, justement, un rêve d'au-delà et un rêve très collectif qu'il l'a très mal vécu, comme le révèlent les biographies successives. Donc il y a, je crois, dans les grands mouvements de l'histoire, on s'adresse toujours à l'universel ou à l'éternité selon qu'on est croyant laïque ou voilà. Mais l'ego, finalement, est assez secondaire, selon moi.
Très bien. Peut-être une toute long, dernière question avant la fin. Oui.
Bonjour. Je n'ai pas bien suivi votre conférence au départ, mais j'aimerais une question. C'est au-delà des définitions données par la société concernant le temps, c'est-à-dire communément appelé l'unité, la seconde, comment pourriez-vous me définir la notion de temps ? Sans parler de questions géopolitiques, parce que ça, ces connaissances dans chaque domaine font partie d'un ensemble, notre monde, la réalité. Mais vous, par exemple,
crois que c'est pas du tout le lieu du débat. Non, et poser une telle question juste maintenant me paraît peut-être un petit peu difficile. La réponse pourrait être trop longue. On était sur la longueur du temps, je crois que ça tombe bien. Voilà. Bon, ben, je vous... Il y avait une dernière question là. Enfin bon, je vous remercie tous. On n'a plus le temps de discuter. Merci à tous nos intervenants.
Merci à
vous. Que vous pourrez retrouver en dédicace à la librairie.